En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En effet, aujourd'hui, il nous est donné une parole fondamentale, mais que nous devons bien méditer dans le monde actuel, qui est plein de contradictions. Nous voyons toute une partie du monde qui croit dans le surnaturel, qui croit en Dieu, qui croit en la création, et une autre partie du monde qui doute depuis longtemps, qui doute tellement qu'elle a insinué ce doute dans l'enseignement depuis des décennies et des décennies, avec une volonté de nier l'existence de Dieu et de cette intelligence, et de vouloir persuader les enfants, et donc les adultes plus tard, que tout est le fruit de milliards, de millions d'années et du hasard. Tout cela va à l'encontre des 10 commandements qui sont un rappel de ce que la raison humaine peut atteindre. Alors comment, ensuite, atteindre ce Dieu d'amour qui préfère l'abandon, le pardon, le sacrifice dans la joie? Oui, cette existence de Dieu, encore une fois, elle est, il faut oser le dire, une évidence. Nous savons bien, notre conscience nous le dit. En ce mois de novembre, combien de peuples touchés par la tradition chrétienne vont prier pour les défunts? Mais combien de peuples prient toujours pour ceux qui sont partis? Combien d'attachements dans l'animisme dans de nombreux peuples, pour ceux qui sont morts, ceux qui ont quitté leur enveloppe charnelle et dont l'esprit, dans la superstition, mais dans une partie de vérité, est présent. Oh, il n'est pas présent justement dans cette superstition qui faisait faire aux Romains des cimetières très particuliers. Dans la pure religion païenne romaine, les pauvres enterraient les morts très simplement dans des cimetières souterrains creusés dans le tuf, c'est-à-dire une terre qui durcit à l'air libre, et c'étaient les catacombes. Ce n'est pas seulement les chrétiens romains qui usaient des catacombes. c'était tous les Romains, les Italiens plus particulièrement, où il y avait ce genre de cimetière. Mais sinon, il y avait des cimetières à l'air libre, non pas souterrains. Ces cimetières étaient des nécropoles et elles étaient toujours à l'entrée des villes. Et les plus riches faisaient des petites maisons. Ces petites maisons pour que les morts y habitent. Mais ils faisaient des fenêtres toutes petites pour que les âmes n'en sortent pas et ne viennent pas ennuyer les morts. Tout ça se passait à Rome, se passait à Palerme, se passait à Milan, et non pas nécessairement dans des pays éloignés dont on se moque peut-être parfois de nos jours. Alors que si que nous soyons européens, australiens ou d'autres continents, cette certitude profonde de l'existence des âmes après la mort corporelle a accompagné les peuples et les accompagne encore. Mais voilà que cette superstition, elle est due à la peur. Alors que les âmes, les esprits, n'ont pas de puissance en elles-mêmes. Et il est très rare qu'elles viennent se manifester auprès de nous. En vérité, Dieu peut permettre qu'une âme d'un mort puisse entrer en contact avec nous, mais extrêmement rarement. Et bien souvent, et cela n'est plus beaucoup enseigné, on n'en parle plus beaucoup, mais ceux qui font du spiritisme se retrouvent avec des démons qui contrefont l'apparence holographique, parfois même de manière prodigieuse, la voix d'un défunt. On dépense des centaines, des milliers d'euros parfois pour aller voir des voyants et des voyantes qui, lorsque ce sont des escrocs, essayent de vous interroger ou disent des choses très générales. Mais quand ce sont de véritables sorciers ou sorcières, ah oui, ça existe, et qu'ils entrent en contact avec les esprits leur donnent des connaissances très précises de la vie des défunts et peuvent vous renverser de connaissances étonnantes. Alors vous donnez de l'argent. Mais Dieu, lui, veut que nous n'ayons de contact avec les défunts que dans une prière d'amour, uniquement en se souvenant du bien commun, des actions, des bons souvenirs, et pour que Dieu les accueille en récompense de leur foi, en récompense de leur espérance. Alors, en effet, dans cette société européenne, plus particulièrement occidentale, avec les Amériques, nous avons froid. Parce que nous ne croyons même plus que les âmes subsistent à la mort corporelle. Ou alors, on part dans des délires qui sont à moitié creux, dans du faux surnaturel, dont les films et les épisodes et les séries télévisées sont la manifestation, avec des morts-vivants, des vampires ou des contacts avec les esprits, les anges et les démons, mais sans véritable religion. Car la véritable religion, c'est un Dieu intelligent, c'est un Dieu Père, c'est un Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous voyons bien que nous sommes différents des autres animaux, même si nous avons un corps tiré du monde animal. Et cet esprit qui anime notre corps, cette âme, elle est appelée à de grandes choses, c'est vrai. Un amour mutuel qui dépasse les soins ordinaires et les instincts corporels. Oui, le Seigneur s'est manifesté, il a parlé, et devant le paganisme, devant la dureté, devant l'envie, la jalousie et la violence des hommes. Il a mis à part un petit peuple pendant des siècles. Et encore une fois, il l'a entouré de miracles et de prophètes pendant des siècles pour qu'il garde la foi. Et ils nous l'ont transmis. Ils nous ont transmis cette foi. Alors, seulement, il ne suffit pas, en effet, de croire dans des puissances invisibles. Il ne suffit pas de croire que les âmes subsistent. Il nous faut bien comprendre que nos vies continuent et que nous recevons le salaire, la récompense de toute une vie qui s'épanouit dans nos choix libres et en conscience. Le mystère de ces petits bébés, même dans le ventre de leur maman, qui meurent, et qui pourtant ont un esprit, ont une compréhension de leur existence, comme de loin, dans les nimbes, les nuages de leur intelligence. Dans notre prière, lorsqu'on les recommande à la miséricorde de Dieu, pour qu'ils voient Dieu, pour qu'ils vivent en Dieu, tous ces petits bébés qui meurent. Et nous, qui avons pu poser des actes libres, nous sommes face à cette vie surnaturelle. Oui, aujourd'hui, un homme de Dieu, un scribe, celui qui écrit, celui qui sait lire, celui qui connaît la Sainte Écriture, celui qui connaît la révélation de Moïse, demande à Jésus, mais alors, quelle est la parole de Dieu, quel est le commandement de Dieu? Le premier commandement, eh bien, c'est de croire que Dieu parle et que nous sommes là pour l'écouter, pour notre bonheur et notre salut. Lorsque nous sommes détournés de notre conscience, lorsque nous avons mauvaise conscience, nous tordons notre intelligence. Lorsque l'on enseigne que Dieu n'existe pas, bien souvent, les maîtres de cet enseignement sont dérangés par la religion parce qu'ils ont mauvaise conscience. Je parle de certains, non pas de tous, mais il y a une véritable mauvaise conscience dans ceux qui utilisent la laïcité pour lutter contre toute piété, contre toute foi, parce qu'eux-mêmes ont une vie de caprice, une vie de loisir. Et cela se manifestera par le manque d'amour du prochain, l'instrumentalisation de la vie de l'autre. Alors, quelle responsabilité pour les croyants de vivre en conformité avec les 10 commandements? Quelle responsabilité pour nous d'être bons, d'être bienveillants, de ne pas être recroquevillés ou amers, de ne pas être hypocrites? Jésus dit à ce scribe qu'il est proche du royaume de Dieu. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que la vraie religion, elle ne consiste pas dans des manifestations trop publiques qui peuvent être teintées de routine, c'est vrai. On s'est moqué de ces cierges, on s'est moqué de ces processions, on s'est moqué de ces belles églises et on a dit « il faut être sincère et la religion est dans mon cœur ». Oui, mais il faut un minimum d'extériorité de cette foi. Mais cette foi se manifeste en effet de la manière la plus fine dans le sacrifice du cœur. Lorsque le scribe dit à Jésus, en effet, l'amour vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice, ce sont les holocaustes et les sacrifices d'animaux. Ce sont les gestes extérieurs. De nos jours, vous n'allez pas offrir un agneau, vous allez offrir un cierge, ou vous allez faire vivre les prêtres, vous allez donner un panier du curé, vous allez donner des œufs, des poulets comme on faisait autrefois, et puis vous allez leur demander de prier pour vous. Vous allez leur donner de la nourriture, vous allez donner le denier du culte, mais c'est de l'argent, c'est quelque chose qui coûte pour vous, c'est manifeste. Et certains sont bien contents de le montrer. J'ai donné telle somme. Voilà, moi je suis pieux. Et en effet, ce n'est pas négligeable, parce que c'est grâce à cela que cette église est là. Seulement, voyez-vous, ce que veut dire ce scribe et ce que Jésus loue, c'est que c'est nos pensées, nos paroles et nos gestes qui sont le vrai sacrifice. Et Jésus, lui, il ne nous a pas donné d'argent, il ne nous a pas donné de biens. Il ne savait pas où reposer sa tête et il a voulu être pauvre alors qu'il aurait pu récolter beaucoup d'argent par tous les miracles qu'il faisait et par la sagesse de son enseignement. Non, il a voulu donner sa vie. Il a voulu donner son temps. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque saint Paul aux Hébreux, par la plume de Silas, son disciple, nous dit qu'il y a un seul prêtre, c'est parce que Dieu s'est fait homme. Et que le souverain pontife, celui qui fait le pont entre le ciel et la terre, c'est le Verbe du Père qui est devenu un homme. Et ce, un homme qui fait le pont entre Dieu et ses frères, c'est un prêtre. C'est pourquoi, méfiez-vous, ne pensez pas trop vite qu'il faut que les prêtres soient mariés, parce que ça sera plus facile. Alors que les protestants ont des pasteurs mariés et ils ne trouvent pas de vocation. Le vrai problème, c'est le sacrifice de sa personne. Et Jésus, lui, a fait le sacrifice de sa personne. Il s'est entièrement donné. Il est notre frère aîné. Et nous sommes tous frères et sœurs, appartenant à un seul corps, le corps du Christ. Demandons donc ce matin à Jésus de nous inclure dans ce corps, dans la communion des saints, nous qui sommes encore vivants, et pour nos êtres chers qui ont été appelés par Dieu. Que nous puissions visiter un cimetière, avoir une prière pour eux et nous confesser en ce mois de novembre pour compenser, réparer pour leur manque d'amour parce qu'ils n'ont peut-être pas tout donné et tout pardonné. Voilà ce qu'on appelle une indulgence. Voilà ce qui est l'amour de Dieu surtout. L'amour de Dieu et de notre prochain. Que la Vierge Marie, reine de tous les saints, reine des âmes du purgatoire, puisse nous accompagner. Que nous puissions prier le chapelet, cette prière répétitive, mais qui nous arrache à la journée ordinaire, en disant les paroles de l'ange, les paroles de sainte Élisabeth et la foi de l'Église. Oui, que nous puissions être vraiment religieux et surnaturels dans un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.